Une fois n'est pas coutume, on évoque l'actualité française, puisque ce matin, elle est revue au prisme de la presse étrangère.
Et c'est vrai qu'elle questionne les éditorialistes du monde entier, cette crise de la démocratie française révélée par les Gilets jaunes, lesquels n'ont pas fini de susciter des commentaires et des vocations aussi à l'étranger. Il n'est donc pas surprenant que le dernier épisode en date de cette crise, le lancement d'un grand débat citoyen par Emmanuel Macron aujourd'hui, soit aussi abondamment commenté. L'allemand Die Welt, par exemple, n'est pas franchement tendre avec le président français, ex-enfant chéri de l'Europe, désormais nous dit-on chef d'État malmené, qui s'essaye à une forme d'alchimie politique. Il veut changer la crise en opportunité pour la France, mais Die Welt pronostique déjà son échec, car le quotidien nous dit que les Gilets jaunes refusent avec ce grand débat ce qu'ils réclament finalement depuis le début, une sorte d'agora, de forum public où ils pourraient vraiment participer à la décision politique. Mais le niveau de rejet des dirigeants politiques est tel que ce débat semble enterré avant même d'avoir démarré. Pour le quotidien autrichien Der Standard, le seul salut possible pour le président français, ce serait de prendre au sérieux les revendications des Gilets jaunes, de ne plus faire semblant, mais cela reviendrait à accepter une limitation de ses compétences avec par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Le risque avec ce débat, c'est donc que Macron tente de récupérer, d'édulcorer ses grandes idées comme le RIC, que les Gilets jaunes in fine se sentent floués par ce débat et que la nation se retrouve face à une nouvelle vague de violence. À ce moment-là, il se mordra peut-être les doigts, Emmanuel Macron, d'avoir initié le grand débat populaire, conclut Der Standard. Emmanuel Macron, toujours lui, commente finalement le Financial Times, nous ne donne aucun signe qu'il pourrait revenir sur ses réformes les plus controversées, comme la suppression de l'impôt sur la fortune. Le lancement de son grand débat apparaît donc dès lors comme une stratégie à haut risque pour le Financial Times. Stratégie autant qu'elle pourrait canaliser la colère et la frustration du peuple, autant elle pourrait alimenter le cynisme et le rejet déjà fort, on l'a dit, en politique. Et à entendre les critiques exprimées depuis dimanche sur le cadre posé pour ce débat, il semble à craindre que ce soit cette seconde option, l'option pessimiste du Financial Times, qui l'emporte pour le moment.
Et puis Camille, en Pologne, l'assassinat du maire de Gdansk suscite un véritable deuil national, mais aussi un débat sur les discours de haine dans la vie politique.
Paweł Adamowicz a été poignardé à la poitrine un dimanche soir par un homme au beau milieu d'un rassemblement caritatif très populaire, une sorte de téléthon polonais. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital hier et dans la foulée, de manière spontanée, des dizaines de milliers d'habitants de Gdansk sont descendus dans les rues du centre-ville en silence pour y rendre hommage à leur maire de 20 ans. Le quotidien local, le Dziennik Baltiki, insiste sur le recueillement silencieux dans ce moment de deuil qui a été imité d'ailleurs par d'autres milliers de Polonais au même moment dans la plupart des villes du pays. Le silence donc et l'émotion blanche, tant il est vrai, nous dit le Dziennik Baltiki, que le défunt maire Paweł Adamowicz était apprécié de ses administrés pour les valeurs qu'il portait, et pas forcément les plus consensuelles. Pourtant, dans une Pologne dirigée par les nationalistes conservateurs du PiS, Adamowicz, qui avait fait partie des meneurs du mouvement Solidarność dans les années 80, défendait ouvertement, par exemple, l'indépendance de la justice, les droits des homosexuels ou l'accueil des immigrés. Il est mort comme il a vécu, résume le quotidien du nord de la Pologne, avec une vraie vision d'une société juste et égalitaire, des valeurs qu'il ne reniait pas dans ses décisions politiques. Sur les raisons de son assassinat, à présent, l'affaire semble entendue, à lire le journal Politiche, proche des conservateurs au pouvoir. L'agresseur, âgé de 27 ans, souffre de troubles mentaux. Il venait de sortir de prison après une condamnation pour plusieurs braquages. Politiche d'ailleurs refuse de politiser ce crime, expliquant dans son édito que tout ce que nous montre cette affaire, c'est que nous courons tous le risque finalement de nous faire poignarder par un déséquilibré, et donc que cette réflexion ne mène nulle part sinon à se faire peur. Mais pour le correspondant en Pologne de la Süddeutsche Zeitung, ce meurtre qui secoue tout le pays pose, qu'on le veuille ou non, la question de la violence croissante dans les débats politiques. Elle pointe surtout la responsabilité des formations politiques de droite et d'extrême droite qui ont table ouverte dans les médias polonais. Le maire assassiné de Gdansk s'opposait à cette radicalisation des idées et des discours. C'est aussi pour cela que sa mort si violente, si publique, horrifie les Polonais, selon The Economist. Ce traumatisme va peser lourd, prédit l'hebdomadaire, dans l'année cruciale qui débute en Pologne et qui va culminer avec les élections législatives de l'automne prochain.
Et puis on termine, Camille, avec la Russie, où le procès du metteur en scène et réalisateur Kirill Serebrennikov donne à entendre les craintes du monde de la culture russe.
C'est un reportage à lire sur le site d'info américain The Atlantic. Au tribunal moscovite où est jugé depuis novembre Serebrennikov pour détournement de fonds. Ce procès hier encore s'est transformé, lit-on, en tribune pour de nombreux artistes venus dire qu'eux aussi se sentent menacés, réprimés dans leur liberté de création. The Atlantic cite en particulier l'auteur Mikhail Zigar, connu pour ses essais critiques du poutinisme, et qui explique que pendant son premier mandat à la tête du pays, Vladimir Poutine a broyé les médias indépendants. Pendant les deuxième et troisième mandats, il a mis au pas le milieu des affaires et à présent, il s'en prend aux artistes, toute une jeune génération talentueuse qui voit ses cinémas, théâtres et salles de concerts indépendants fermés les uns après les autres sous la pression. Kirill Serebrennikov, qui est toujours, il faut bien le dire, assigné à résidence, est donc devenu l'incarnation de cette jeune création réprimée. Ça n'empêche pas la culture d'État de lui rendre à l'occasion quelques honneurs de façade. La Novaya Gazeta nous apprend par exemple qu'il a reçu le week-end dernier à Moscou l'équivalent russe des Césars, l'éléphant blanc du meilleur réalisateur pour son film Lieta, l'été, qui est toujours en salle en France et que je vous recommande chaudement. En
passant. Merci Camille Magnard.